Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de pourquoi vous tombez amoureux ou amoureuse? Pourquoi dans la société, la norme est majoritairement les relations amoureuses hétérosexuelles?
Si je vous dis que l'amour, comme on l'entend aujourd'hui, est une construction sociale, que le coup de foudre n'existe pas, que l'amour a été pensé et construit sociétalement et que le patriarcat a mis la main dessus il y a maintenant plusieurs siècles. Vous allez sûrement me regarder bizarrement comme Milad a pu le faire quand j'ai proposé cette chronique. Et je vous comprends. Mais pourtant, je ne vous dis pas de bêtises. Plusieurs journalistes, majoritairement des journalistes femmes, se sont penchés sur ce sujet. Avec le mouvement MeToo, de nombreuses femmes ont pris la parole sur les violences sexistes et sexuelles qu'elles vivaient tout au long de leur vie et dans différentes sphères sociales. Nombreuses sont les femmes qui ont dénoncé les violences sexistes et sexuelles qu'elles ont subies au sein de leur couple hétérosexuel. Ce qui a amené les journalistes et chercheuses à s'intéresser plus largement aux rapports de domination qui s'exerçaient dans le couple hétéro. Charlotte Bien-Aimée est une de ces journalistes qui, en partant de son propre vécu de femme cisgenre, c'est-à-dire en tant que personne assignée femme à la naissance et qui se considère ainsi, en tant que femme cis en couple dans une relation hétérosexuelle et en tant que maman, elle s'interroge sur la condition des femmes. Ses réflexions sont produites et diffusées par Arte Radio et sa série s'intitule Podcast à soi. Le 8 septembre 2022, la journaliste décide d'interroger notre manière de voir et de vivre le couple. Construit en deux parties, son épisode « Troubles dans le couple » explique pourquoi et comment l'amour est une construction sociale. Comme à son habitude, Charlotte Bien-Aimée articule lecture de textes, témoignages et entretiens croisés avec des chercheuses. Dans la première partie de cet épisode, la journaliste reçoit Claire-Lise Gaillard, docteur en histoire contemporaine, spécialiste de l'histoire des intimités et de la culture imprimée au 19e et 20e siècle. Avec elle, Charlotte Bien-Aimée revient sur une partie de l'histoire de l'amour avec un grand A.
La perception qu'on a aujourd'hui dans le sens commun d'être en couple, c'est vraiment une transposition du mariage, justement. C'est le résultat d'une construction historique. Irène Théry a montré qu'il y avait une évolution entre ce qu'elle appelle le couple chaînon et le couple duo. Elle voit qu'il y a une sorte de première phase d'institutionnalisation du couple au XVIe siècle, au moment du Concile de Trente, sous l'égide donc de la religion catholique, qui valorise le mariage et qui demande le consentement des parents. Donc c'est une manière d'institutionnaliser l'union de lignage. C'est une conception qui s'infléchit un petit peu au XVIIe et XVIIIe siècle, parce qu'il y a une critique justement de cette contrainte du consentement des parents. Et donc à la fin du XVIIIe siècle, il y a beaucoup de pamphlets qui critiquent le mariage, où on donne à marier en fait des très jeunes filles à des vieux barbons. Et cette critique du mariage, elle explose à la Révolution française, parce que le contexte est propice à faire ça. Et donc là, on pense le couple différemment. On pense plus le couple nécessairement comme l'union entre deux lignages. On le pense toujours comme l'union entre deux familles, mais en tout cas, on pense une entité conjugale, un citoyen avec sa famille. Et d'ailleurs, c'est très lié à la conception républicaine de la Révolution française, parce qu'il y a, dans la Convention de 93, si je ne dis pas de bêtises, le député Amar qui explique vraiment cette conception-là, où il dit « c'est pour ne pas avoir de roi pour la France que j'en veux un dans chaque famille ». Donc cette entité conjugale, elle est fondée sur la domination masculine, en fait.
Fin 19e siècle, début du 20e siècle, l'idée d'un mariage d'amour commence à se faire entendre. Certaines historiennes parlent même d'une première révolution sexuelle menée par des penseurs marxistes et des penseuses féministes. Sauf que ces révolutionnaires se sont fait persécuter et leurs revendications sont retombées. Toutefois, en parallèle de cette répression, l'idée d'un amour romantique se diffuse dans la culture de masse, à travers des livres, dans les films, dans les courriers de lecteurs et lectrices. Ainsi, le nouvel objectif du couple, c'est le bonheur conjugal.
Et donc, à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, disons à belle époque, entre deux guerres en gros, il y a un moment que les historiennes ont identifié comme étant l'érotisation de la sphère conjugale. Et la dernière étape qu'identifie Irène Théry, c'est le milieu du XXe siècle, où on passerait au couple duo. C'est le changement de statut de l'épouse, ou en tout cas de la femme, qui devient une interlocutrice. Donc c'est plus forcément un couple entité, mais c'est plus un couple binôme. Toute la culture de masse qui véhicule cette idée d'un amour romantique, justement, qui serait au-delà des considérations économiques, ça a contribué à rendre aveugle cette imbrication nécessaire et extrêmement pérenne entre l'économie et l'intimité.
Car oui, comme l'explique l'historienne Claire-Lise Gaillard, le couple et la famille plus largement, ce sont d'abord des enjeux économiques, puis des enjeux religieux, et fin 19e siècle arrivent les enjeux romantiques de bonheur. Marie Bergström, chargée de recherche à l'Institut national d'études démographiques, poursuit dans le podcast en expliquant que la conjugalité s'inscrit dans une logique de reproduction sociale, et que même si à notre époque contemporaine, l'amour romantique perdure et les moyens de rencontre se développe, notamment avec les applications de rencontres, pour elle, ça pose un problème.
En fait, on va sur ces plateformes, on va choisir des partenaires, on fait une sélection-élimination, et dans ces choix, il y a de la sélection sociale, il y a de la sélection raciale, il y a de la sélection sur l'âge et sur des normes de genre. Et tout ça, en fait, ça saute aux yeux. Les plateformes, ce n'est pas un changement des règles de la rencontre. Ce qui est tellement perturbant avec ces plateformes, c'est au contraire, ça dévoile les mécanismes, les logiques de appareillement des partenaires.
Marie Bergström, spécialiste de l'analyse des rencontres amoureuses sur les sites internet, explique dans le podcast de Charlotte Bien-Aimée que le fait de tomber amoureux ou amoureuse est issu de tout un processus très scripté.
On a quelque part une trame dans la tête de qu'est-ce que c'est de tomber amoureux. Et en fait, c'est des pratiques, c'est des géographies, c'est des mots qui sont prononcés. Donc, je pense qu'on a toutes et tous des images un peu de qu'est-ce que c'est une rencontre romantique. Lorsque nous vivons cette trame, de fait, on ressent des sentiments amoureux. C'est-à-dire que c'est pas une fausse trame, c'est que le fait de jouer ce jeu-là ensemble, de faire ces pratiques-là, c'est ça aussi qui est et de tomber amoureux.
Alors même notre ressenti amoureux serait construit socialement. Et dans ces schémas, des rapports de domination se produisent. Par exemple, la galanterie est laissée aux hommes, tandis que l'émotion est un aspect plus féminin. Les femmes doivent d'ailleurs être assez passives dans les relations hétérosexuelles. C'est elles qui doivent recevoir les avances des hommes. Bien sûr, ma chronique n'a pas pour but de dire que l'amour n'existe pas, mais simplement de rappeler qu'il est construit, qu'il est régi par des logiques sociales propres à la société dans laquelle ce dernier évolue. Les relations amoureuses ne sont pas inertes au rapport de domination que les femmes subissent dans cette société patriarcale.